C'est maintenant le moment de la chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Et on va reculer un petit peu dans le temps. Là. Au printemps dernier, il y a le gouvernement du Québec qui a sanctionné une loi qui modifie les droits matrimoniaux des conjoints de fait avec enfants. Puis aujourd'hui, bon, on va aborder justement ces changements-là qui ont été apportés avec Catriane Hamel, qui est étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Catriane, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très bien. On va commencer avec quelques définitions pour qu'on parte tous sur la même base. Hein. Un conjoint de fait, qu'est-ce que c'est?
Oui, donc les conjoints de fait, c'est un couple en fait qui n'est pas marié. Donc, il y a deux façons d'être reconnu comme conjoint de fait avec une autre personne. Donc, soit que vous êtes en couple publiquement et que vous faites vie commune, ou soit que vous faites vie commune et que vous avez au moins un enfant, et ce, peu importe depuis combien de temps vous formez un couple. Donc, quand on parle de vie commune, on veut dire que vous êtes présumé partager une vie ensemble, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous vivez sous le même toit.
Okay.
Donc, on peut aussi dire union de fait à la place de conjoint de fait. Par contre, on ne doit pas confondre union de fait avec union civile, qui est un couple qui fait un acte solennel de vivre ensemble. Donc, l'union civile engage les mêmes responsabilités et obligations que le mariage. Donc, pour faire un peu un contraste avec ce qu'on va voir dans quelques minutes, le mariage et l'union civile amènent la constitution du patrimoine familial. Donc, c'est un peu comme si les acquis des mariés et des unis civilement vont ne faire qu'un. On va retrouver dans le patrimoine familial les résidences utilisées par la famille, les meubles de ces résidences et qui servent à la famille, les voitures utilisées par la famille, les droits cumulés pendant le mariage, comme les REER ou les régimes de rente. Et ce patrimoine familial fait partie des droits matrimoniaux des couples mariés et unis civilement.
Bon, en ce moment, là, c'est quoi les droits des conjoints de fait là, en cas de séparation?
Oui, donc c'est pas très compliqué. En fait, les conjoints de fait en cas de séparation n'ont aucun droit ou obligation reconnu aux personnes mariées ou unies civilement. Donc, c'est un peu assez différent, je dirais, là, autre que la pension alimentaire. Donc, autant couple marié, unis civilement ou union de fait vont avoir le droit à une pension alimentaire pour enfants seulement. Donc, les conjoints de fait, eux, ils n'ont pas de patrimoine familial, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de droit sur les résidences de la famille, comme la résidence familiale. Il n'y a aucune possibilité de séparer la valeur des biens meubles, des résidences ou des voitures si une personne en était propriétaire seule. Mm-hmm. Les conjoints de fait n'ont pas le droit non plus au REER ou au régime de rente de l'autre conjoint, puis n'ont pas le droit non plus à une prestation compensatoire, donc pas le droit à un montant d'argent pour le travail réalisé pendant la relation au profit de l'autre conjoint. Puis, ils n'ont pas non plus le droit à une pension alimentaire pour époux.
Okay.
Donc, les conjoints de fait n'ont plus, à ce qu'on pense souvent, les conjoints de fait n'ont pas le droit à la succession automatiquement. Donc, ce ne sont pas eux, en fait, les héritiers automatiques. Si l'un des conjoints décède, il faut prévoir ça dans un testament. Donc, en bref, les personnes en union de fait n'ont strictement aucun droit ou obligation envers l'autre, mis à part dans les situations de copropriété. Donc, chaque conjoint est seul propriétaire de ce qui lui appartient en propre.
Mm-hmm. OK, parfait.
Donc, on pourrait un peu faire un exemple. Donc, on pourrait illustrer un couple qui est Frédéric et Raphaël. Frédéric et Raphaël, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils ont deux enfants. Et là, Frédéric, elle, est propriétaire de la résidence familiale à 100%. Frédéric et Raphaël se séparent. Frédéric veut garder la maison. Raphaël ne détient aucun droit sur la maison de Frédéric. Il ne peut pas demander à la cour d'avoir la maison ni que le prix de la maison soit partagé en deux puisque lui, il n'a aucun droit sur la maison.
Mm-hmm.
Donc, le couple posséderait aussi une voiture, mais la propriété de la voiture est 100% à Frédéric. Donc, Raphaël, lui, ne peut pas aller demander à la cour d'avoir la voiture ou d'avoir un montant en échange que Frédéric garde la voiture. Donc, même si ça fait 15, 20 ou 30 ans que Raphaël utilise la maison et la voiture au même titre que Frédéric, si Raphaël n'a pas droit de propriété, il n'a le droit à rien.
Mais là, la réforme, là, elle s'applique à qui?
Oui, donc en fait, la réforme, elle va s'appliquer seulement aux conjoints de fait avec enfants nés après le 29 juin 2025. Donc, la loi entre en vigueur le 30 juin 2025. Si des conjoints de fait ont un ou des enfants avant cette date-là, c'est le régime actuel qui va continuer d'agir. Ils
okay.
vont pas être assujettis à aucun changement. Ça reste qu'ils vont quand même pouvoir choisir de s'y soumettre. Donc, si, par exemple, vous avez des enfants en ce moment et vous êtes conjoint de fait et que ça vous intéresse de vous assujettir à la réforme, vous pouvez le faire en prenant des démarches devant un notaire ou par contrat sous sein privé. Donc, ça ne se fait pas automatiquement comme les autres conjoints qui vont avoir des enfants après le 29 juin.
OK.
C'est aussi intéressant, par contre, à mentionner que les conjoints de fait qui n'ont pas d'enfants, eux, rien ne va changer dans leur cas. Donc, les changements vont vraiment être seulement pour ceux qui vont avoir des enfants. Donc, si jamais les gens qui ne veulent pas s'assujettir aux nouvelles dispositions ou encore des conjoints de fait sans enfants, ils veulent prévoir des dispositifs lors d'une séparation, ils peuvent faire un contrat de vie commune qui n'est pas s'unir civilement ou se marier.
Bon, juste parlons des changements. On l'a dit, 30 juin 2025, c'est quoi les changements qui vont entrer en vigueur à cette date-là, Catherine?
Premièrement, donc on parle depuis le début des conjoints de fait avec enfants. On va avoir un nouveau terme pour les désigner, donc on va les appeler l'union parentale. Donc, l'union se forme dès que deux personnes conjointes de fait deviennent parents d'un même enfant. L'union parentale peut aussi se créer lorsque deux parents d'un même enfant deviennent conjoints ou le redeviennent. Donc, par exemple, les parents ont eu un enfant, se sont séparés et sont revenus ensemble.
Okay.
L'union parentale, elle, prend fin par le décès de l'un des conjoints ou par la cessation de vie commune, donc à la séparation. L'union parentale prend aussi fin si le couple se marie ou s'unit civilement, donc on change de régime. Puis, si un des conjoints se marie ou s'unit avec une autre personne, l'union parentale va aussi prendre fin.
Okay.
La réforme, elle, sur les conjoints de fait, donne des droits sur la résidence familiale qui est en soi une maison ou les droits qui confèrent l'usage, donc comme un bail, un appartement. Puis la résidence familiale, c'est là où en fait, où est-ce qu'on exerce notre quotidien, donc vraiment notre maison finalement. La réforme, elle apporte aussi la création d'un patrimoine d'union parentale qu'on va voir bientôt. Puis, elle apporte aussi des changements quant au droit d'obtenir une prestation compensatoire et sur l'héritage, mais on va en discuter dans une chronique éventuelle.
Là, on parlait là, de la résidence familiale. C'est quoi les droits qui vont être accordés par rapport à ça avec cette nouvelle loi-là?
Donc, premièrement, on va protéger la résidence familiale et les biens qui la garnissent ou l'ornent. Donc, quand on parle de biens meubles qui la garnissent ou l'ornent, on parle des biens utilisés par la famille comme un sofa, un réfrigérateur, un lit ou encore un cadre dans le salon. Mm-hmm. Ça serait impossible pour un conjoint de vendre, hypothéquer ou de se débarrasser de ce bien-là sans le consentement de l'autre. Quant à la résidence familiale, il va aussi falloir le consentement de l'autre conjoint pour la vendre, la réhypothéquer ou casser le bail, même si le conjoint qui souhaite procéder à cette action est le seul propriétaire ou a personnellement contracté le bail. Donc, par exemple, Raphaël signe seul un bail d'un appartement qui s'avère être la résidence familiale. Il ne peut pas casser le bail sans demander le consentement de Frédéric, à moins qu'il obtienne l'autorisation du tribunal. Il est aussi possible que le tribunal ordonne à l'un des conjoints de quitter la résidence familiale pendant les procédures judiciaires qui visent à régler la fin d'union, et ce, sans prendre égard de qui possède la maison.
Maintenant, le patrimoine d'union parentale, qu'est-ce que c'est là au sens de la loi?
Donc, ça ressemble un peu au patrimoine familial qu'on a parlé au début, donc on va vraiment faire un parallèle. Le patrimoine d'union parentale, c'est comme une boîte qui va être partagée à part égale et qui inclut des biens auxquels les conjoints auront droit sans égard à qui la propriété. Donc, la création de l'union parentale amène la naissance du patrimoine d'union parentale. Les biens faisant partie de ce patrimoine vont être les résidences de la famille, donc on comprend la résidence familiale, mais ça pourrait être aussi un chalet, une roulotte, par exemple. Le patrimoine inclut aussi les biens meubles qui garnissent ou ornent la résidence de la famille et les véhicules automobiles utilisés par la famille. Le patrimoine d'union parentale, contrairement au patrimoine familial, ne va pas comprendre les REER ou les régimes de rente. Puis, il va aussi avoir des exceptions à l'inclusion de certains biens qui vont être reçus par succession ou par donation. Donc, dans ces cas-là, les biens ne seront pas partagés. Celui qui va les avoir reçus va les conserver.
Okay.
Donc, si la voiture qui sert à aller à l'épicerie, à aller au travail, déposer les enfants à la garderie, donc la voiture qui sert à l'usage familial, a été héritée par un conjoint à la mort de son père, eh bien, la voiture va être exclue du patrimoine.
Okay.
Donc, les conjoints pendant l'union peuvent modifier ce qui est inclus dans le patrimoine d'union parentale. Toutefois, ils ne peuvent pas écarter ce qui est déjà inclus comme la résidence familiale, les meubles, la voiture. Ils vont devoir impérativement le faire par acte notarié. Donc, en fait, c'est un peu différent du patrimoine familial.
Okay.
Il est aussi possible de se retirer de ce patrimoine d'union parentale. Donc, ce n'est pas d'une ordre publique qu'on doit absolument s'assujettir. Donc, si jamais on veut se retirer de ce patrimoine-là d'union parentale, on doit le faire devant un notaire et d'un accord commun. Puis, si les deux parties se retirent du patrimoine dans les 90 jours suivant sa constitution, on va réputer que le patrimoine n'aura jamais existé.
Puis, au niveau du partage du patrimoine d'union parentale, Catherine, ça consiste à quoi exactement?
Donc, une fois que le patrimoine va prendre fin ou qu'on se retire du patrimoine d'un accord commun, on arrive au partage du patrimoine d'union parentale. Donc, pour établir combien chaque conjoint aura, on va prendre la valeur marchande des biens qui constituent le patrimoine. On va déduire les dettes en lien avec ces biens-là, puis on va diviser également la valeur restante entre les conjoints. Il va y avoir quand même une histoire de plus-value dans ça. Donc, si l'un des conjoints possédait un bien avant l'union parentale, on va déduire la valeur nette que le conjoint avait acquis dans la même proportion qu'au moment de la création du patrimoine. Donc, c'est pas très, très clair quand on l'explique comme ça, mais si on revenait à Frédéric et Raphaël, ouais. Frédéric, elle possédait la maison au tout départ, puis elle avait investi 100 000 $ donc elle avait 100 000 $ de payer sur sa maison lorsque l'union parentale a été créée. Donc, en fait, 100 000 $ sur 200 000, donc ça, c'était la valeur totale de la maison. L'union parentale prend fin, le patrimoine aussi, et puis là, on va comprendre qu'avec le temps, la maison a probablement pris de la valeur. Mm-hmm. Donc, on va séparer le prix de la maison en deux, mais on va quand même calculer le 100 000 que Frédéric avait payé au départ en valeur d'aujourd'hui. Donc, on va devoir faire un petit produit croisé, donc on va faire le 100 000 $ sur la valeur de 400 000 d'aujourd'hui. Donc, ça va nous donner 200 000 $ puisque la maison a doublé. Mm-hmm. Qui fait en sorte qu'on va réduire, en fait, sur 400 000, on va enlever 200 000 qui va aller directement à Frédéric et le 200 000 restant va être séparé également entre Frédéric et Raphaël.
OK. Donc, on veut faire ça de façon juste et équitable.
Exactement. Donc, le partage, lui, il va pouvoir se faire par numéraire, donc en argent ou par transfert de biens qui peuvent être des biens hors patrimoine aussi, donc juste dans le but d'égaliser le patrimoine et de revenir avec l'apport qui revient à tout le monde.
Donc, il y aurait une valeur, là, puis on la déduit là, au bout de la ligne.
Exactement.
OK.
Donc, il est aussi possible de renoncer au partage du patrimoine. Donc, une fois qu'on arrive à la fin de l'union et qu'on ne veut pas partager le patrimoine et renoncer à ce qui est, en fait, l'argent qui est dedans. Donc, on pourrait soit le faire par un acte notarié ou par une déclaration judiciaire, donc par un tribunal finalement.
Si on a des questions, parce qu'on a fait un survol très, très rapide, si on a des questions supplémentaires, si on veut de l'information, on peut vous joindre au Centre de justice de proximité de l'Outaouais?
Oui, 100%, ça va nous faire plaisir.
Bon, bien, excellent. On vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus sur leur site web, notamment leurs réseaux sociaux. Catherine Hamel, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Merci beaucoup, puis à bientôt.
Mais merci, à bientôt.